La Grande Table, une émission programmée par Aurélien Delacroix et Mayenne Escovic, préparée par Laura Dutèche-Pérez avec Sophie Marty et François Bréhus, coordonnée par Henri Leblanc et réalisée par Éric Lancien avec Jacques Hubert. Avant de retrouver comme un jeudi sur deux, le rendez-vous de la médiatrice dans l'actualité des idées aujourd'hui, exil, plus lourd que le mot, les mots, le choc des photos. On en parle avec notre invité, l'historien Bruno Cabanne, auteur de Un siècle de réfugiés qui paraît au seuil, photographier l'exil. Qui, pour en dire quoi? Une étude à la fois chronologique et thématique de ces modes de représentation depuis la Première Guerre mondiale à aujourd'hui. Information, documentation, émotion, à quoi sert et que suscite la photographie dite humanitaire? On en parle avec un spécialiste de la guerre. Il a notamment dirigé l'an passé une histoire de la guerre du 19e à nos jours pour lequel il était venu nous voir. Un ouvrage paru au Seuil. Bruno Cabanne, bonjour.
Bonjour Yves.
Merci d'être de retour autour de cette grande table. Deux photos de l'exil, celle de l'évacuation des camps de migrants Porte de la Chapelle à la frontière entre Paris et Saint-Denis, choisie parmi la multitude de photos parues ce matin sur les réseaux sociaux, sur nos télés aussi. Celle des forces de l'ordre en nombre, venues encadrer plus de 1600 personnes évacuées, conduites vers des bus qui les conduiront vers des gymnases et des centres d'accueil. Il y a d'abord cette photo de Martin Bureau de l'AFP sous le pont du périphérique parisien. Il fait encore nuit. Les forces de l'ordre et des hommes encapuchonnés, ils sont tous debout, tous semblent attendre quelque chose. Et puis cette deuxième photo, choisie parmi beaucoup, celle du photographe Philippe Lavieille, du Parisien. Des hommes probablement d'origine africaine avancent l'un après l'autre vers l'entrée d'un car, protégé de la pluie par des caouets ou des sacs en plastique. Ils portent des sacs de course à la main qui contiennent leurs quelques affaires. On imagine leurs maigres bagages. Bruno Cabanne, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ces photos? Comment vous les recevez?
D'abord, je veux dire quelque chose. Je suis toujours un petit peu gêné par ces photos prises très vite au moment d'un drame comme ça, parce que on convoque naturellement la presse, on convoque les photographes. C'est très différent des photographies que j'ai présentées dans mon livre. Cela dit, la deuxième que vous avez là de Philippe Lavieille est très intéressante parce qu'elle oppose effectivement la mise en scène des forces de l'ordre avec une tentative, je crois, de présenter des individus, de montrer des visages, de montrer des corps, de montrer ce qu'ils emportent avec eux, ce qui me semble à mon avis très important, parce que c'est vraiment quelque chose, une thématique sur laquelle travaillent beaucoup les photographes à l'heure actuelle. Et puis un jeu très intéressant, je trouve, entre ce premier plan d'un représentant des forces de l'ordre de dos et ce flou dans lequel sont pris les réfugiés qui vont vers un endroit qu'on ne connaît pas. Voilà, je trouve ça très très intéressant. Mais une fois encore, j'ai un peu des réserves pour le contexte de travail, si vous voulez.
Parce que vous avez dit convoquer, ça veut dire qu'on a prévenu les journalistes et les médias que cette évacuation aurait lieu.
Vous avez une photo de l'AFP, la première. Mm-hmm. La deuxième, c'est un photographe remarquable qui travaille pour Le Parisien. C'est pas du tout les mêmes.
Qui a prévenu les autorités? Un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est communication gouvernementale. Qu'est-ce qu'on cherche à dire avec cette évacuation, à montrer aussi à travers ces photos?
La mairie de Paris aussi, bien sûr.
Est-ce que c'est un message humanitaire qui est délivré ou sécuritaire ici?
Les deux. Enfin, je pense que c'est plutôt sécuritaire, effectivement. C'est aussi désengorger les marges de la ville de personnes qui sont là sans doute depuis des mois et des mois.
Dans des conditions
épouvantables.
Épouvantables. Des photos actuelles, mais des photos pas sans histoire. Dans quelle continuité historique les inscrivez-vous, Bruno Cabanne, ces photos?
C'est l'objet de ce livre. La photographie humanitaire qui s'intéresse aux réfugiés, elle a à peu près un siècle. Elle naît au moment des guerres balkaniques, c'est-à-dire que quelques décennies simplement après l'invention de la photographie, c'est ça qui est fascinant finalement. Deux décennies après l'invention de la photographie, on commence à photographier des champs de bataille. Et 50 ans après, on commence à photographier des réfugiés, et notamment avec l'idée de montrer ce qui se passe dans les Balkans, d'identifier des crimes de guerre. On est en fait dans une conséquence directe des tentatives de réguler le droit de la guerre à La Haye en 1899 et 1907. Donc le premier grand moment, c'est ça, c'est les guerres balkaniques et la Première Guerre mondiale. À mon avis, le deuxième grand temps, c'est la guerre d'Espagne. Qui est vraiment un moment fascinant parce que c'est le moment où la photographie devient un acte politique de la part des photographes. On pense à Robert Capa, mais il y en a beaucoup d'autres. Et on cherche à ce moment-là à s'intéresser aux civils comme victimes de la guerre. Et moi, ce qui me semble fascinant comme historien de la guerre, finalement, on arrive toujours un peu plus tard que les autres. On a mis beaucoup de temps à comprendre que le grand tournant de la guerre, c'était quand même le fait que les victimes principales de la guerre au XXe siècle, progressivement, c'était les civils. Et c'est ce que montrent les photographes des années 30, très clairement. Et il y a une tentative, je crois, de regarder les visages. Et ça, c'est fascinant aussi. On sait, bien sûr, ce que dit Capa sur l'idée d'une proximité. Il faut être le plus proche possible. Mais la proximité, c'est aussi une proximité naturellement morale, je crois. Il y a un vrai investissement moral. Et ce qui me fascine, en l'occurrence, pour la guerre d'Espagne, c'est que tout se passe en l'espace de quelques journées. À la fin janvier 1939, Barcelone vient de tomber. Vous avez 500 000, hein, on a complètement oublié ça, 500 000 personnes qui se pressent à la frontière française, qui sont bloquées parce que je crois que les autorités françaises mettent 3 ou 4 jours à ouvrir la frontière, au minimum. 500 000 personnes qui sont au col du Pertus, et vous avez des photographes parmi les plus grands qui sont là à les photographier et qui les photographient autrement, justement. Et ça c'est quand même extraordinaire. Ça c'est, je crois, le deuxième grand moment. Le troisième, c'est les années 60, c'est le Biafra. La catastrophe humanitaire totalement oubliée à ce moment-là. Et Gilles Caron qui fait de son appareil photographique une arme pour mobiliser l'opinion publique. Et puis le dernier moment, c'est ce que j'ai aussi, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est les photographes actuels. Moi, je suis très très admiratif et voilà, c'est un livre d'hommage en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, bien sûr, c'est un livre d'historien, c'est un livre d'historien de la guerre, mais c'est un livre d'hommage à cette jeune génération de photographes qui se saisit du sujet des réfugiés pour interroger la question des réfugiés autrement, pour s'impliquer bien sûr, mais aussi, je crois, fondamentalement pour réfléchir à leur métier et réfléchir à ce que c'est qu'être photographe aujourd'hui. Mmh. Et vous avez des travaux extraordinaires sur les migrants en Méditerranée, sur la grande crise dans les Balkans, avec notamment des photographes américains qui ont été récompensés par le prix Pulitzer pour ça, et qui ont fait un travail absolument remarquable sur les familles notamment, sur les enfants.
Qu'est-ce qui rend leur travail remarquable à vos yeux ?
À mes yeux, deux choses. La première, c'est le prolongement du travail engagé par Robert Capa, c'est-à-dire se tenir à la juste distance, finalement ne pas être trop présent, je crois, essayer de capter les regards. Et peut-être ce qu'a rajouté cette génération par rapport à celle de Capa, c'est d'essayer d'expliquer quelque chose, parce que le grand problème de ces photographies de réfugiés, c'est qu'elles sont très émouvantes, elles sont parfois très belles, mais elles n'expliquent pas toujours l'origine du drame des réfugiés, et c'est ce qu'essaie de faire la génération actuelle. Et puis il y a aussi des constructions, je trouve, absolument, enfin des constructions d'images tout à fait intéressantes, et notamment une référence à la peinture occidentale, notamment tous les travaux de Sergei Ponomarev qui a, je pense à une photographie que j'aime particulièrement dans ces 200 photographies que j'ai choisies, qui est construite exactement comme le radeau de la Méduse, hein, comme une sorte de pyramide, hein, avec des mouvements, avec des regards, avec une humanité, je trouve. Qui change les choses, qui change notre regard. Je crois fondamentalement à la force des images, je crois à la force de la photographie. Je pense que il y a tout un travail très remarquable qui est fait sur les conditions de vie des migrants dans les camps de transit, qui est fait sur les droits des migrants, c'est très bien, sur les juristes. Mais finalement, ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est d'essayer de d'amplifier la parole prise par les photographes et de montrer que le changement des images, le changement de notre regard est essentiel pour notre attitude à l'égard des réfugiés, essentielle.
Parce qu'on est passé aussi d'une photographie amateur à une photographie qui s'est professionnalisée, c'est-à-dire à un regard des photographes qui s'est conscientisé et éduqué. Et finalement, d'ailleurs, tout cet ouvrage plaide pour une éducation de nos regards et une humanisation du regard.
Absolument. Hein. Absolument. Alors, ça signifie à la fois... Ça signifie à la fois que les photographes doivent se rendre compte qu'ils rentrent dans une histoire longue de la photographie, ce qu'un certain oublie, je pense notamment des photographes d'agence qui se rendent pas toujours compte qu'en photographiant les réfugiés de cette manière-là, ils s'inscrivent dans la continuité de Capa et de beaucoup d'autres. Et puis le fait que il y a aussi photographier, c'est un acte militant. Voilà, c'est aussi ce qu'on oublie. Enfin, il y a pas de, on photographie pas ça de manière objective ou voilà, c'est pas une photographie d'actualité. Il y a un vrai militantisme, je crois. Et puis il y a aussi un travail sur les identités, sur les identités de ces hommes, ces femmes et ces enfants, les faire parler, ne pas les figer dans un instant. Je crois que les deux grands écueils de la photographie, c'est à la fois de figer naturellement les sujets comme des dans un instant précis, d'oublier leur passé, leur avenir, d'où ils viennent, et surtout quel est leur projet, et puis d'essentialiser, de les prendre pour des symboles. Et on photographie, finalement, on a photographié les réfugiés un peu comme on a photographié les camps de réfugiés, c'est-à-dire en faisant des espèces de symboles d'espace englobant, sans s'intéresser vraiment à l'histoire. Et c'est là que l'historien, je pense, peut apporter quelque chose.
À la violence des situations s'ajoute celle des images, écrivez-vous. On se souvient bien sûr du choc et de la vague d'émotions déclenchée par la photo du petit Eylan. En 2015, de mémoire, mort noyé dans le naufrage d'une embarcation de migrants, son corps échoué sur une plage turque. Une photo jugée bouleversante, marquante
par
beaucoup.
Vous avez vu qu'elle n'est pas dans le...
Elle n'est pas dans le livre. Elle n'est pas dans le livre, mais... Pourtant, et vous allez nous dire pourquoi elle n'y est pas, elle a fait l'objet d'une récupération par l'ensemble de la classe politique, notamment. On va écouter à ce sujet les mots de Marion Maréchal-Le Pen.
Sur cette crise des migrants, ma première question, est-ce que vous avez été ému par la photo de ce petit Syrien mort noyé sur une plage turque ?
Ah, honnêtement, cette photo est atroce, elle est bouleversante. Et je trouve d'ailleurs indécent qu'elle ait ainsi été utilisée à des fins politiciennes, parce que c'est évidemment le but. Le but, c'est de culpabiliser les Français et de leur faire accepter l'inacceptable, c'est-à-dire un nouveau transfert de souveraineté, une nouvelle dépossession de notre capacité de contrôle migratoire, puisqu'aujourd'hui, François Hollande et Angela Merkel veulent s'entendre pour mettre en place des quotas obligatoires. Ce sera donc une fois de plus l'Union européenne et Jean-Claude Juncker qui devra décider du destin de ces populations et du droit qui devra être appliqué en France sur le sujet des réfugiés.
Voilà, on a aussi à travers ces mots et cette question du qui instrumentalise quoi ou qui, Bruno Cabanne, tout ce que vous appelez l'ambiguïté du matériau photographique qui ressurgit.
Bah, si vous voulez me faire réagir sur ces déclarations, moi ça me rappelle exactement, vous savez je vis aux États-Unis depuis 15 ans, ça me rappelle exactement ce qu'a dit Donald Trump quand on a publié il y a... c'était l'été dernier, au mois de juin. Cette photo, vous en souvenez peut-être, d'Alberto Martinez, qui a 25 ans, qui est noyé à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec sa petite fille à côté de lui qui a 24 mois. Et la photo a été là aussi largement diffusée dans la presse américaine, et Trump a dit exactement la même chose. Voilà, donc, c'est absolument, c'est répugnant. Hein, vraiment. La vraie question, effectivement, c'est de savoir effectivement ce qu'on fait de tout ça et pourquoi moi j'ai pas choisi de publier utiliser la photo. Pour tout dire, ce qui m'aurait intéressé éventuellement d'intégrer dans ce livre, c'est une photo qui a été aussi un tournant, je crois, dans l'histoire de la photographie humanitaire, qui n'est pas une photographie humanitaire, mais qui était un tournant quand même dans la réflexion sur la représentation des réfugiés. Vous vous en souvenez, c'est les photos faites pour les publicités Benetton dans les années 90. En travaillant sur ce livre, d'ailleurs, j'avais complètement oublié que non seulement en 92, il y a cette photo terrible des Albanais qui sont comme sorte dessin humain sur un navire, mais que Benetton fait la même chose en 2018 ou 2017 en volant en fait des photos d'un navire humanitaire en les réutilisant à son profit. Bon, j'avais souhaité l'utiliser parce que c'était un moment clé et Benetton demandait des droits phénoménaux pour cette reproduction d'images, qui me semblait pour le coup inacceptable. Mais il y a une politisation, naturellement, utilisation de tout ça qui pose problème.
Oui, naturellement, vous le dites aussi, mais ça peut aussi entraîner certaines photos peuvent aussi avoir des effets politiques, entraîner, être le moteur d'une action politique d'une mobilisation.
Oui,
parce que vous dites c'est répugnant, mais là, en l'espèce, cette photo a aussi quand même eu toute une vie après et provoqué des réactions.
Est-ce qu'elle a changé vraiment les choses? Ça, j'en doute, naturellement. C'est un peu ce qui est terrible, c'est qu'en fait...
Mais ça reste pour vous une photo qui était trop voyeuriste, qui faisait trop appel à l'émotion?
Je pense. Pour répondre à votre question, je pense au travail des photographes sur comment photographier, non pas un cas précis, mais comment photographier. C'est, je crois qu'il y a 5000 morts en Méditerranée depuis 5 ou 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ça, voilà, de ces corps-là? Est-ce qu'on les montre ou non? J'en parle dans mon livre en montrant que beaucoup de photographes maintenant essaient plutôt de représenter le vide de la Méditerranée ou bien les gilets de sauvetage comme une sorte de suggestion justement de ceux qui s'en sont sortis pour amener le public à réfléchir sur tous les morts, tous les invisibles. C'est une vraie question, cette représentation de la visibilité de ces hommes et ces femmes noyés dans les eaux de la Méditerranée.
La photographie humanitaire, un registre ambigu dès ses débuts, nous rappelez-vous Bruno Cabanne dans ce livre, Un siècle de réfugiés, photographier l'exil, un siècle de réfugiés, parce que vous actez la naissance de la photographie humanitaire en 1918, après la première guerre. C'est pour vous le début aussi d'un siècle de réfugiés. L'ambiguïté du matériau photographique entre ces photos qui documentent l'exil, la photographie plus misérabiliste et celle qui alimente parfois les peurs volontairement ou involontairement. Vous écrivez, le premier regard qui se porte sur les nouveaux arrivants est toujours celui d'un policier, d'un humanitaire ou d'un photographe, un regard qui les transforme en objets de surveillance, d'assistance ou de curiosité. Sous l'œil de la caméra, l'individu disparaît dans la foule anonyme, parfois déshumanisée. L'image aussi construite alimente ensuite les imaginaires collectifs, innombrables. Les réfugiés sont perçus comme menaçants. Pour réussir son image, le photographe va jouer avec des motifs classiques, connus de tous, ceux de la peinture, la Vierge à l'enfant, le radeau de la Méduse, de la littérature, l'Odyssée, ou encore avec l'imaginaire tragique du XXe siècle, les camps, les barbelés, l'alignement des tentes ou des baraquements. Voilà, on voit que la photographie porte en elle énormément de signifiants. Comment distinguer ou comment éclairer la différence de regard et le déséquilibre qui se joue entre le regardé et le regardeur?
C'est une question très compliquée. Je pense que l'une des manières ce que je suggère à la fin du livre, c'est d'intégrer le plus possible les réfugiés au travail de l'image. C'est ce qu'ont commencé à faire des photographes en formant, par exemple, des réfugiés à la photographie. C'est aussi, il y avait une très belle expédition j'ai vu à Venise l'été dernier, Rocco il Lampedusa, qui était fait à l'initiative des Nations Unies et qui essayait de montrer des travaux de justement d'anciens photographes réfugiés. Ça c'est une constante aussi. Enfin c'est pas très récent. Enfin c'est dès les années dès la guerre d'Espagne, on voit des photographes républicains espagnols photographier leurs conditions de vie dans les camps. On voit aussi, ce qui est encore plus, je trouve, émouvant, l'émergence d'une photographie au sortir de la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de déplacés, notamment chez des survivants de l'extermination des Juifs. Et ces photographes, ces anciens photographes professionnels, représentaient les réfugiés de quelle manière? Soit en les représentant en sportifs, des groupes de, des équipes de foot notamment dans les camps de déportés, enfin de déplacés, qui essaient de montrer la reconstruction des corps, soit des familles. Et ça, je trouve ça très très étonnant et très intéressant de voir que la photographie, qui est bien entendu dans les années 30 une photographie d'identification, de documentation, de répression, qui est une photographie déshumanisante et qui participe au mécanisme de l'extermination, devient un outil de revanche, un outil de reconstruction, un outil de projection dans l'avenir, un outil d'affirmation d'une identité, un outil qui permet effectivement à ces survivants de montrer qu'ils sont encore debout et que eux qui sont une génération qui n'a plus de photos, c'est-à-dire qui n'a plus une seule photo de leur famille, de leurs ancêtres, de tout ce qui a marqué leur vie, il faut qu'ils recommencent et ils commencent par faire. Voilà, ce serait presque un beau thème de la première photo. Qu'est-ce qu'on prend comme première photo quand on a survécu à ça? Eh bien, on prend souvent une première photo de sa famille, de son enfant nouveau-né, en essayant de montrer qu'on est en train de reconstruire sa vie. Et ça, je trouve ça absolument passionnant.
C'est la question de la dignité.
C'est la question de la dignité. Mais la dignité, voilà, prise en main par les survivants eux-mêmes. Mmh. Et au moyen, une fois encore, de l'image, de la photographie.
Est-ce qu'il faut montrer, avec cette photographie humanitaire, est-ce qu'il faut dévoiler aussi, ou au contraire, préserver, protéger?
Les deux, effectivement. Il y a tout un passage, finalement, plusieurs photographies qui portent sur les objets qu'on emporte avec soi. Il y a un très beau travail d'un jeune photographe qui s'appelle Maxime Régnier sur justement sur les gens dont on vient de parler, là, les réfugiés qui sont Porte de la Chapelle ou autour de Paris, où il leur a demandé d'ouvrir leur sac et il a photographié les objets qu'ils emportent avec eux. Alors, je comprends, j'ai lu des choses de lui, je comprends sa démarche, je trouve ça très digne, très. Mais en même temps, il y a une forme, voilà, il y a une intrusion qui est quand même difficile à comprendre et à accepter. Ce qui moi m'intéresse effectivement, c'est de voir ce qu'emportent justement ces réfugiés. Ils emportent quoi? Ils emportent parfois des souvenirs, bien entendu, de chez eux. Ce qui est le plus intéressant, c'est quand des réfugiés, par exemple syriens, emportent la clé de leur maison. Moi, je trouve je savais ça pour les réfugiés de la guerre de 14, les réfugiés du Nord, qui ça va absolument pas naturellement sur leur maison sera debout quand ils reviendront. Mais voilà, quand on emporte la clé de sa maison, c'est quel plus beau symbole d'une foi dans l'avenir quand même. L'idée qu'on reviendra un jour, qu'on reviendra dans une maison qui aura pas changé. Et puis ils emportent des téléphones portables. Des téléphones portables, vous les trouvez à peu près sur toutes les photos de réfugiés actuels. Le moyen de rester en contact avec ceux qui sont restés derrière eux, le moyen de s'informer sur le passage des frontières, le moyen parfois de survivre. Recharger son téléphone portable, c'est devenu dans notre monde actuel pour les réfugiés un élément de survie important.
C'était au cœur du dernier roman de Marie Dariussecq que l'on recevait autour aussi de cette grande table et qui en parlait, qui avait mis le téléphone portable.
Oui, absolument, c'est un élément central de son téléphone de son fils.
De sa narration. On va écouter un extrait du documentaire Dai Weiwei, Human Flow, sorti l'an passé au cinéma.
Being a refugee is much more than a political status. It is the most pervasive kind of cruelty that can be exercised against a human being. You are forcibly robbing this human being of all aspects that would make human life not just tolerable, but meaningful in many ways.
The more immune you are to people's suffering, that's very, very dangerous. It's critical for us to maintain this humanity.
الان 60 روزه با پسرم همینطوری داریم میچرخیم ولی هیچ کس نیستش که بگه یه راهی رو بخواد به ما نشون بده کجا برم زندگیمو شروع کنم.
Extrait du documentaire Human Flow, on va réécouter le même extrait mais avec la traduction cette fois pour être sûr que tout le monde comprenne.
Être réfugié, cela va au-delà d'un statut politique. C'est la forme la plus extrême de violence qui puisse être exercée sur un être humain. On dépossède cet être humain de tout ce qui permettrait à sa vie d'être tolérable et d'avoir un sens. Si on devient insensible à la souffrance humaine, cela devient très dangereux. Nous tenons absolument à préserver cette humanité. J'ai ressenti avec mon fils depuis 60 jours. Personne ne nous a dit où aller. Je vais où pour démarrer une nouvelle vie?
Voilà, l'artiste de renommée internationale, Ai Weiwei, avec ce film Human Flow qui parlait de la catastrophe humanitaire, de la crise des migrants, qui a la particularité aussi aujourd'hui. Vous nous disiez que la photo humanitaire était née en temps de guerre. Aujourd'hui, une grande partie des réfugiés fuit autre chose que la guerre. Les causes peuvent être aussi le réchauffement climatique, la famine, et pas seulement.
Ce qui me gêne avec, c'est un travail important, mais ce qui me gêne avec son film Human Flow, enfin le titre lui-même est quand même c'est une forme de déshumanisation. Ça fait partie de,
comme on a beaucoup critiqué l'emploi du mot flux pour flux
bien sûr,
migratoire.
Bien sûr, mais enfin là il y a plein de, moi je trouve que le terme de crise des réfugiés pose problème aussi. Beaucoup de ces images sont vues du ciel. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est l'utilisation des drones. Les drones, c'est des objets de surveillance, c'est des objets de guerre. Les drones sont utilisés par Huawei, ils sont utilisés aussi par un photographe pour lequel j'ai un gros problème, qui s'appelle Rocco Randelli, qui a fait des photos vues du ciel par les drones. Le drone voit tout, mais le drone ne regarde rien. Et Randelli assume complètement. Randelli dit que finalement, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire une sorte de cartographie Et il compare de manière absolument scandaleuse les mouvements de réfugiés à des mouvements d'animaux, en disant que bon là, l'espèce humaine connaît aussi ce genre de mouvement depuis toujours. Bon, si, cette dérive-là est extrêmement dangereuse. On peut traiter ça par le mépris, mais je trouve, et c'est l'objet vraiment de ce livre, que ces images-là, qui quand même se multiplient, préparent des débats politiques terrifiants sur le statut des réfugiés. Mmh. Et malgré tout, quel que soit le discours humaniste qu'on pourra essayer d'avoir sur les réfugiés, les images auront toujours le dernier mot. Ça sera toujours les images qui seront les plus puissantes et qui prépareront, je trouve, un climat malsain et obscène.
Donc il faut les censurer, il faut...
Non, il ne faut pas les censurer, on ne va pas les censurer, mais il faut justement, je trouve, enfin, c'est ce que j'essaie de faire modestement avec ce livre, il faut promouvoir le travail de cette génération remarquable de jeunes photographes qui fait un travail autrement plus intéressant.
Et éduquer le regard.
Et éduquer le regard, absolument.
Le nôtre, bien sûr. C'est ce que vous faites aussi à travers ce livre. Un mot juste de ce que beaucoup ont qualifié, vous également, l'encampement du monde. Mm-hmm. Parce que beaucoup de ces photographies sont aussi réalisées dans des camps de migrants. Mm-hmm. On peut y dénoncer le misérabilisme d'une partie des représentations qui ressortent de ces photos, comme on peut aussi souligner l'importance de réancrer cet ancrage, cet enracinement qui se fait aussi de personnes qui ont fui, qui ont été en permanence dans le mouvement, dans l'exil, et de montrer le quotidien, comment on reconstitue
Exactement.
Toujours un
quotidien. C'est effectivement là aussi quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. On peut photographier les camps comme en insistant sur la structure spatiale, c'est très intéressant. Ce que cherche à faire la nouvelle génération de photographes, c'est une fois encore de suivre au plus près les réfugiés, de s'intéresser à leur mode de vie, de pas s'intéresser simplement à des distributions de nourriture ou d'aide humanitaire, mais vraiment à confier une fois encore, à former les réfugiés et à confier aux réfugiés le soin de photographier leur quotidien. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ces camps existent parfois depuis des décennies, qu'on a des enfants et des petits-enfants qui sont nés là, et c'est devenu leur cadre de vie. Donc confions-le aussi le soin de raconter leur vie.
Merci beaucoup à vous, Bruno Cabanne, Merci. D'être passé autour de cette grande table. Un siècle de réfugiés, photographier l'exil, votre ouvrage à la fois historique et photographique, extrêmement bien documenté, vient de paraître au Seuil. Merci à vous.
Merci.
France Culture, il est 13h22.
Le rendez-vous de la médiatrice.
Elle est là, Emmanuel Davier, bonjour.
Bonjour Olivia.
Vous recevez aujourd'hui Vincent Lemaire, notre délégué au programme, bonjour.
Bonjour Olivia.
Avec beaucoup de questions d'auditeurs.
En effet, Vincent Lemaire, beaucoup de messages nous parviennent sur le site de la médiatrice au sujet de l'invité ce matin de Guillaume Erner, Jean-Marc Jancovici, ingénieur et consultant interviewé sur la transition énergétique. Les messages vont très majoritairement dans le même sens. Anne écrit « J'ai été choquée par l'attitude de Jean-Marc Jancovici. Quelle arrogance, quelle impolitesse. Quel mépris, quel renversement d'arguments. Bravo à Guillaume Erner qui a su garder son calme. » Et Pierre, un auditeur, ajoute « Je ne comprends pas l'intérêt d'inviter ce genre de personne agressive et dénuée de toute impartialité. » Vincent Lemaire, que répondez-vous à la colère, à l'indignation de vos auditeurs ?
Alors Emmanuel, je vais essayer de leur répondre. D'abord, peut-être en levant le doute sur une formule qui est un peu euphémistique quand l'émission était titrée « Transition énergétique ». Ce qui fait aujourd'hui réagir nos auditrices, nos auditeurs, c'est la question du nucléaire civil.
Exactement.
Et c'est bien à ce titre-là qu'ils ont été effectivement très nombreux à se manifester après la matinale de ce matin. Alors bon, d'abord, vous dire que la question de la place qu'il faut accorder à l'énergie nucléaire, on le sait, c'est une des questions qui, abordées dans les médias, génère des débats très profonds. Je suis dans un premier mouvement obligé de renvoyer une part des auditeurs les uns vers les autres, puisqu'en fait, dans les très nombreux messages que nous avons reçus ce matin, il y en a aussi un nombre tout à fait significatif qui se félicite que France Culture et Guillaume Erner, la matinale, aient fait le choix de recevoir Jean-Marc Jancovici. Cette émission de ce matin est brillante par son invité. Bravo. Alors, et en revanche, ce message critique plutôt le journaliste qui aurait trop interrompu l'invité. Vous voyez, donc on a à peu près toutes les critiques possibles. Il me semble que ce qui a fait réagir manifestement les invités, c'est qu'effectivement le ton de l'émission était un ton tendu, puisque beaucoup d'auditrices et d'auditeurs reprochent le ton arrogant de l'invité et du coup le ton un peu mordant de Guillaume Erner. C'est pas le ton habituel de la matinale de France Culture, ce qui a pu générer effectivement beaucoup de messages. À titre personnel, moi je me félicite que de manière globale et dans cette émission ce matin et dans les émissions qu'on peut proposer sur l'antenne, il me semble que le débat sur le nucléaire s'est enfin réouvert dans notre pays. Il était devenu quasiment impossible de faire débattre des gens de la question de la place du nucléaire civil dans le pays, avec la question du changement climatique, avec la question maintenant du coût du nucléaire qui est vraiment posé et qui est d'ailleurs posé aujourd'hui par le gouvernement. Cette question du nucléaire s'ouvre enfin et je trouve que c'est une bonne chose pour le débat démocratique.
Question d'Elsa à présent. Adèle Haenel a pris la parole sur Mediapart lundi soir. Elle accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement et d'harcèlement sexuel lorsqu'elle était âgée de 12 à 15 ans. Mardi matin, seulement 5 minutes ont été consacrées à la prise de parole de l'actrice dans La Théorie à 8h50. Cette prise de parole a pourtant une importance capitale. Pourquoi ne l'avez-vous pas évoquée dans les journaux de 8h et de 9h? Pourquoi n'y a-t-il pas d'émission spéciale suite à cela? Demande cette auditrice.
Alors, Emmanuel, je vais pouvoir répondre à Elsa et en partie la rassurer. Il y a beaucoup d'émissions qui vont traiter de cette question dans les heures qui viennent. Dès aujourd'hui, le temps du débat sur la question des violences sexuelles. Donc l'émission d'Emmanuel Laurentin à partir de 18h. Dès demain matin, une matinale. Autant le temps du débat est sur la question des violences sexuelles de manière plus générale. Demain matin, ce sera vraiment sur la question de la place des inégalités et de la domination dans le cinéma français. Et puis je cite également l'émission politique, l'émission d'Hervé Gardette, ce samedi, intitulée « Le féminisme est-il un sport de combat ?» Donc vous voyez que cette question-là, elle est bien présente sur notre antenne. Pourquoi y a-t-il eu ce décalage de quelques heures, quelques jours? En fait, l'enquête de Mediapart révélée lundi soir par l'article puis la vidéo sur le site de Mediapart a fait quand même l'effet d'une vraie révélation. Il a fallu quelques heures, quelques jours, là en l'occurrence, le temps de programmer ces émissions, pour choisir des angles. Suite à ce témoignage très fort qui posait beaucoup de questions, il y a des réunions très régulières, des réunions éditoriales dans la chaîne, et il y a eu débat sur justement quels angles tirer de ces révélations, et en l'occurrence voici les premiers angles à l'antenne et la façon dont France Culture va s'emparer de cette question. Il était évidemment en aucune manière envisageable de la passer sous silence ou de ne pas la relayer. Il fallait simplement trouver et se laisser le temps de trouver les bons angles pour revenir sur ce témoignage effectivement très fort.
Très bien. Donc Elsa pourra écouter ces émissions et nous écrire pour nous dire ce qu'elle en a pensé. Plusieurs messages pour finir au sujet du magazine Valeurs Actuelles. Je vous lis l'un d'entre eux. Auditeur régulier de France Culture, j'ai été surpris d'entendre Valeurs Actuelles désignées comme hebdomadaire d'extrême droite. C'est un jugement de valeur qui ne recouvre pas la réalité. D'autre part, je ne comprends pas pourquoi on entend toujours sur France Culture parler d'extrême droite mais jamais d'extrême gauche, désignée comme France Insoumise ou gauche radicale. Pourquoi ne pas parler de droite radicale et d'extrême gauche? Que vous inspire cette réflexion, Vincent Lemaire?
Alors c'est une question là qui est posée de manière sémantique. Hein. Pourquoi parle-t-on d'extrême droite et de gauche radicale et pas de droite radicale et d'extrême gauche? Pour être tout à fait honnête, je ne vois pas exactement ce que ça pourrait changer d'utiliser ce genre de qualificatif ou d'expression. Sur le qualificatif à propos de Valeurs Actuelles, je pense que c'est un hebdomadaire qui revendique un certain nombre de valeurs qu'on peut placer à la droite de l'échiquier. Alors après, à savoir comment le formuler, c'est effectivement un débat qui est ouvert. Et en fait, c'est une question que j'ai envie de vous renvoyer, Emmanuel Davier, puisque vous êtes la grande spécialiste de l'usage, du correct usage des mots et des locutions par les journalistes de Radio France, et que vous nous envoyez toutes les semaines des mails pour nous dire attention, il faut plutôt utiliser cette expression.
Comment on aurait dû dire?
Voilà, comment on aurait dû dire, Emmanuel?
Je vous invite à lire mon prochain édito.
Voilà, et vous laissez deux semaines pour que les auditeurs, surtout de France Culture, puissent connaître votre réponse.
On vous lira avec attention.
Merci beaucoup à tous les deux. Les auditeurs peuvent vous écrire de France Culture ou d'ailleurs. D'ailleurs, Emmanuel Davier, merci beaucoup à vous.